rien que ce parfum. Mais alors, le chien aboie, c'est impatiente. Allez, dépêche-toi, j'ai faim. Comment ? M'écrie Laura. Mais la vue seule de ce festin devrait te rassasier. Le plaisir des yeux, mon ami. Admire, admire donc.
Patria, patriarca, 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 patria, patriarca, patria.
Le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and holes.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon en féminin.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme.
Et bonsoir, vous êtes bien sûr dégenrés.
Bonsoir. on est toujours là pour déranger. Alors, ce soir, c'est un sujet dont on parlait pas mal dans les années 70 et puis qui semble parfois un peu tomber aux oubliettes. Alors, nous, ça nous semble toujours aussi important.
Surtout que ça pullule d'enfants partout.
Et oui, vous l'aurez compris, on avait envie de vous parler de la notion d'enfance. Et des mécanismes d'oppression des adultes sur les enfants. Alors, parce que pour nous, en tant que féministes, il y a assez clairement des parallèles entre les mécanismes d'oppression auxquels se heurtent les femmes et ceux auxquels sont confrontés les enfants. Et rien qu'à la base, en fait, la notion d'enfant, comme celle de femme, est bien une construction sociale. C'est-à-dire qu'à des réalités spécifiques, comme le sexe biologique ou l'âge, la société va faire correspondre des représentations. Et pour nous, c'est bien des représentations, c'est-à-dire un peu des clichés et qui sont assez enfermants. Alors je crois qu'on entend tous et toutes, tous les jours, des choses comme « les femmes sont douces »,« les enfants sont fragiles ». Voilà, et pour nous, ça, c'est vraiment des représentations qu'on va coller sur un sexe spécifique ou un âge, mais qui ne sont pas des réalités concrètes, qui sont bien construites. Et alors, le problème, en plus, c'est que ces soi-disant caractéristiques de catégories comme les femmes ou les enfants vont justifier qu'on les opprime, qu'on les domine. Et d'ailleurs, il en va de même pour toutes les catégories opprimées. On va toujours leur trouver des caractéristiques qui, en fait, qui les amèneraient naturellement à être dominées. En plus, il se trouve que les femmes et les enfants sont deux catégories qui ont été toujours très liées dans l'histoire, qu'on a toujours voulu rendre indissociables. Ainsi, on s'est servi des enfants, par exemple, pour assigner les femmes au foyer, pour les empêcher d'en sortir, en disant, ben voilà, ton rôle en tant que femme, c'est d'enfanter, et puis après, c'est de prendre soin de ses enfants, donc tu peux pas faire autre chose que ça, t'es obligée de rester dans le foyer pour cette mission-là. Et de l'autre côté, on s'est servi des femmes, justement, pour, je dirais, pour fliquer les enfants, pour leur poser plein de limites, pour les empêcher d'être libres, en quelque sorte. Donc, c'est une double relation un peu de servitude. Et alors, c'est notamment tout ce que va développer une auteure qui s'appelle... alors, excusez-moi pour la prononciation, hein, mais je pense quelque chose comme Shulamit Firestone. Et c'est dans un petit bouquin, en fait, sur lequel on s'est pas mal appuyé dans la préparation de cette émission, qui est intitulé « Pour l'abolition de l'enfance », et donc qu'on vous recommande vivement. Voilà une citation d'elle.
« Je sais que beaucoup de femmes sont excédées d'être toujours réunies aux enfants en un seul bloc. Et le fait qu'ils ne soient pas plus à notre charge et sous notre responsabilité que sous celle de n'importe qui sera un principe essentiel de nos exigences révolutionnaires. Nous avons simplement, au cours d'une longue période de souffrance liée, acquis de la compassion pour eux, ainsi qu'une certaine compréhension. Il n'y a aucune raison d'y renoncer à présent. Nous savons ce qu'ils cherchent et ce qu'ils ressentent, parce que nous aussi nous subissons encore le même type de suggestion. La mère, qui voudrait tuer son enfant à cause de tout ce qu'elle a dû lui sacrifier, ce sentiment est répandu, n'apprend à l'aimer que lorsqu'elle se rend compte qu'il est aussi désemparé et opprimé qu'elle, et par le même oppresseur. Sa haine se dirige alors vers l'extérieur, et l'amour maternel naît. Mais allons plus loin. Notre but final doit être la suppression des conditions spécifiques de la femme et de l'enfant, qui ont suscité cette alliance des opprimés, et la préparation à une condition nouvelle et pleinement humaine. Il n'y a pas encore d'enfants capables d'écrire leurs propres livres et de raconter leurs propres histoires. Nous devrons une dernière fois le faire pour eux. Enfin bon, de plus en plus, et j'espère que ça va continuer, que les enfants vont se mettre à parler plus fort.
Et alors, ben, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on fait cette émission ce soir, c'est-à-dire parler des enfants, car parce qu'on sent des choses en commun avec eux, et notamment de subir des mêmes types d'oppression, et qui nous semble donc impossible de penser la liberté des femmes sans penser, et vraiment y réfléchir et se donner des moyens, sans penser la liberté des enfants, et vice-versa. Et puis je crois qu'on avait envie de dire que on sent aussi toujours des enfants, au sens où on refuse les cadres qui nous sont imposés par la société arbitrairement, et que aussi on a bien envie de continuer à rêver, à avoir des utopies.
À faire les débiles et à faire des grosses conneries.
Voilà, parce que ça nous semble chouette dans ce monde ultra rigide.
Ultra sécuritaire, disciplinaire, c'est la mort.
Voilà, et on se rend compte aussi que dès qu'on conteste justement, on nous considère comme à la marge, et on nous infantilise, on nous juge irresponsables. Alors, une petite chanson pour tous les enfants, quel que soit leur âge.
Enfant du soleil, ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle.
Ouais, alors c'était un extrait de La Cité d'Or. Alors, moi, je vais faire un truc un peu historique. Alors, j'espère que ça va pas être trop chiant. Alors, par exemple, déjà, rien qu'on si on s'appuie sur l'étymologie du mot enfant, ça veut déjà dire infos, celui qui ne parle pas. Alors, moi, je trouve ça déjà assez conséquent. Presque, on pourrait s'arrêter là, tellement c'est flagrant. Et sinon, on peut aller aussi chercher du côté de mineur. Et mineur, ça va vouloir dire qui n'est pas un sujet de droit, sans droit civique, propriété des parents.
Parents qu'il n'a pas choisi.
Du coup, déjà, rien que dans ces définitions-là, ça fait mal. Après, maintenant, en s'appuyant sur le livre pour l'abolition de l'enfance, je vais essayer de retracer un peu comment tout ça, ça s'est construit. Alors, l'idée d'enfance, c'est une construction idéologique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui va de toute façon accompagner le développement du capitalisme, donc d'un système d'exploitation, et celui concuminant de l'humanisme, hein, parce que soi-disant, l'idée d'enfance, c'est une valeur humaniste. Alors, l'école, elle va s'être substituée à l'apprentissage petit à petit. Autrement dit, l'enfant, il va cesser d'être mélangé aux adultes et d'apprendre directement à leur contact. Donc, l'enfant, il va donc être mis en quarantaine, à l'écart, avant d'être lâché au monde. Une quarantaine dans laquelle il sera dressé sous prétexte d'éducation et relâché une fois conforme. Donc ça, on en parlera plus tard, c'est l'école. Et donc, l'idée que l'enfant est un être particulier, ça va signer l'enfermement des enfants. Il va être enfermé comme un être incomplet, infantile, à éduquer, un petit animal à humaniser, une matière naturelle à civiliser, une matière innocente et d'une vulnérabilité à protéger. En fait, ce qui revient petit à petit et tout au long de l'histoire à priver l'enfant de toutes ses libertés d'autonomie et de tout droit sur lui-même et de tout pouvoir sur sa propre vie. Et donc, la protection et la sécurité va être le passeport pour le tenir sous complète tutelle, quoi. Ça va être le prétexte, en fait. Le prétexte à le dominer complètement, de manière légitime.
À diriger sa vie, tout ça, quoi.
Et ce qui est marrant, c'est que cette complète tutelle, elle va être intégrée dans les mœurs sous prétexte d'amour. Et ça, c'est marrant parce que il y a d'autres civilisations, il y a d'autres histoires de vie qu'on a essayé de dominer avec ce prétexte d'amour ou de bienveillance pour leur bien. Quoi.
C'est ça, par exemple, si on prend l'histoire de la colonisation, c'est beaucoup revenu en fait qu'il fallait coloniser, notamment pour la France, qu'il fallait coloniser l'Afrique, effectivement parce que c'était des barbares, etc. Mais on a des récits comme ceux, par exemple, d'Amadou Ampateba, qui est très intéressant, qui a vécu tout ce siècle, qui a vécu toute l'histoire de la colonisation, qui montre comment des missionnaires, des colons, etc., aimaient sincèrement un pays, une culture, sa population, comme ceux du Sénégal ou du Mali, par exemple, et pensaient vraiment que c'était pour le bien de ces gens-là qu'ils étaient là, qu'ils étaient prêts à sacrifier leur temps, leur vie pour ça. Sauf que cet amour, il a fait les ravages qu'on connaît, par exemple, dans la colonisation.
Comme encore aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir le culot de parler de l'occupation de l'Algérie comme s'ils avaient voulu civiliser une population, quoi. Ça se dit encore, hein, c'est pour dire. Et donc, on a voulu civiliser les enfants. Merci. On est bientôt tous morts. Et donc, je reprends sur le fait que l'école s'est substituée à l'apprentissage petit à petit. Alors, on peut se rendre compte, en fait, de ce que disait tout à l'heure Hélène dans l'introduction, c'est qu'il y a des mécanismes d'oppression qui vont être similaires entre différentes oppressions. Là, on faisait l'exemple de la colonisation, mais donc c'est hyper concret entre la femme et l'enfant. Et que c'est un peu pour ça qu'il est impossible de penser la libération des femmes sans penser la libération des enfants. Notamment au fait que l'asservissement des femmes tient au fait qu'elles ont été cantonnées dans un rôle restreint, celui de porter et d'élever des enfants. Un asservissement qui va grandir lors de la transformation du collectif. Donc le collectif, c'était à l'époque du Moyen-Âge, c'était le corps polymorphe et rigide dans lequel évoluaient les humains à l'intérieur de ce truc-là. Et donc ce collectif, il va se transformer en cellule familiale patriarcale. Donc cette cellule familiale patriarcale, ça va être la foule de petites sociétés et quelques groupes de masse de classe.
Alors on veut pas dire par là, hein, que le patriarcat il n'existait pas avant, mais Enfin, il existe depuis des centaines d'années, hein, mais en tout cas, ça s'est plus organisé à travers la famille, quoi.
Ouais, c'est ça. Entre guillemets, la domination masculine, elle va être plus démagogique, quoi. Et donc encore plus perverse, quoi.
Ouais.
Et donc, dans cette restructuration, on va pouvoir trouver une idée largement acquise par l'État et les institutions à notre époque, c'est de diviser pour mieux régner. Donc, on va diviser le collectif et diviser à l'intérieur des familles. Il y a encore d'autres parallèles à faire entre ce mythe de l'enfance et celui de la féminité. C'est que la femme et l'enfant sont considérés comme asexués, tous les deux, donc purs. Alors, pour l'enfant, ce sera souvent ce petit être si proche de Dieu. Et ce qui signifie un peu à dire que toute idée de sexualité sera considérée un peu comme une aberration, quoi. L'enfant, il ne va pas avoir de sexualité, quoi. Elles vont être toutes niées. Et alors, ça, on va pouvoir le ressentir par rapport à plein de trucs. Et d'abord, on va faire un petit écart sur Christine Delphi, qui a pu parler de ça.
Ouais, en fait, enfin, voilà, de manière plus générale, donc on sait très bien même que pour peu qu'on laisse les enfants un peu tranquilles, par exemple en se caressant ou par d'autres moyens, ils sont tout à fait aptes à se donner du plaisir sans pour autant conscientiser ce qu'ils sont en train de faire ou mettre des mots dessus, mais voilà, et que ça va être les adultes qui vont les culpabiliser en leur faisant comprendre que ce qu'ils font est mal. Alors après, évidemment, ça va construire des adultes pleins de frustrations par rapport à leur sexualité, comme on sait actuellement. Et donc, effectivement, ça, c'est vraiment un parallèle qu'on peut faire aussi avec l'oppression des femmes, en fait, où cette société patriarcale, comme on vous en parle souvent, hein, projette souvent sur les femmes qu'elles ont moins de besoins sexuels que les hommes. Par exemple, elles se demandent aussi souvent qu'est-ce que peuvent bien faire deux femmes entre elles. Voilà, et que ça, c'est dès l'enfance, dès l'apprentissage, par exemple, du corps humain, où les ouvrages scolaires vont souvent occulter, par exemple, le clitoris, qui est un organe entièrement voué à la jouissance des femmes. Et donc, on va nier donc, la sexualité des enfants comme celle des femmes. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, c'est deux catégories qui sont particulièrement touchées par les violences sexuelles, surtout au sein de la sphère familiale. Et c'est par exemple effectivement ce qu'a étudié Christine Delphi, qui est une chercheuse et écrivain féministe, et qui rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a 2 enfants qui meurent par jour dans les foyers en France. Et donc je crois que c'est... Alors, je ne suis plus exactement sûre des chiffres, mais c'est aussi... Il y a énormément de femmes aussi qui meurent en France suite à des violences conjugales. Ces violences se perpétuent car on considère que l'enfant appartient à sa famille comme la femme appartient à son mari. Alors, Christine Delphi, justement, elle donne un exemple assez frappant où elle dit « Si on voit dans la rue un homme gifler une femme, généralement, des gens vont s'interposer après un temps d'arrêt, le temps de savoir s'il y a des relations de type marital entre eux. Et il suffit que l'homme dise « c'est ma femme » pour que tout le monde s'arrête comme s'il avait le droit de le faire. Donc la question n'est pas l'endroit où ça se passe, où se passe cette agression, puisque ça peut se passer dans un endroit public, mais bien le type de relation qu'il y a. Donc on s'aperçoit que la relation que donc, cet homme et cette femme ont est sanctionnée par la société, pas seulement par le droit, mais aussi par les passants qui respectent la règle de non-violence entre les gens, l'interdiction de frapper autrui, mais qui considèrent que cette règle n'existe plus dès lors que les gens ont des relations conjugales.
Et puis ça marche pareil pour les enfants, quoi. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va voir quelqu'un frapper un gamin ou agir avec lui d'une manière qu'on trouve naze et qu'on va lui rétorquer, on va nous répondre « c'est mon enfant, je fais ce que je veux ».
Voilà, et là ça légitime ça tout, quoi. Ça coupe toute discussion en général.
Puis de plus, par rapport à la sexualité des enfants, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, on va les considérer comme des anges, donc comme des êtres asexués. Et ce qui est vraiment, ce que je trouve vraiment étonnant, c'est que, comme disait Hélène, les femmes sont victimes de violences sexuelles, mais les enfants aussi sont victimes de violences sexuelles. et on leur a enlevé tout outil pour se défendre, puisqu'ils sont asexués, et on leur donne pas d'outils pour essayer de se défendre par rapport à la sexualité, étant donné qu'ils sont aussi habitués à être abusés tout le temps. Donc l'abus, c'est normalisé, quoi. C'est normal d'être abusé. Du coup, sexuellement, c'est pareil, c'est normal d'être abusé, quoi.
Enfin, surtout puis, quand on n'a pas d'informations déjà sur sa propre sexualité.
C'est ça.
Ben, c'est difficile de mettre des mots dessus, quoi.
C'est ça, et puis clairement, ils ont été... ils sont enfin, et en plus, il n'y a pas de place, parce qu'ils ont une sexualité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, vraiment. Mais il n'y a pas de place, quoi. Il n'y a pas de place pour cette sexualité.
Voilà.
Ils n'ont pas d'existence.
Alors, on va se passer une petite chanson de Kenny Arcana qui, justement, se révolte contre ses rapports d'oppression, d'autorité, tout ça. Donc, Kenny Arcana... alors c'est, on peut faire une dédicace à plein de gens. Je pensais notamment à des gens qui doivent nous écouter à l'hôtel California. Kenny Arcana, ciao, le foyer, je me barre.
Jamais squatter la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha, où les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, tcha tout le monde. Allez, pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogique et rigide, fugitif de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux, élu sans domicile. Je vagabonde les yeux ouverts, l'enfant des rues est en visite. Me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un traître. Croisant mon expérience sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fuite depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel est le toit. Entre ciment et belle étoile.
Alors oups. Oups. Alors le foyer, hein, le foyer, ça pouvait nous faire écho un peu au foyer familial aussi. Parce que, le foyer familial, c'est comme un foyer. Hein.
Et des fois, on a envie de se barrer aussi.
On a souvent envie de se barrer, ouais. Et alors d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, on vous rabâchait le mot espoir. Alors moi, une fois, ça m'a énervée. Je me suis dit, ça ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire espoir? Et alors espoir, ça veut dire attendre confiante. Moi, je crois qu'il ne faut rien attendre et que surtout pas de manière confiante.
Du coup, il faut prendre plutôt qu'attendre.
Ouais, c'est ça. Alors on va continuer en fait sur ces parallèles en fait entre le mythe de l'enfance et celui de la féminité. Alors c'est parce qu'au XVIIe siècle, les humanistes vont épouser la cause de la faiblesse et de l'innocence de l'enfance, que l'enfant va donc être placé comme la femme l'avait été sur un piédestal. Ce qui va accentuer la séparation des mondes adulte-enfant et femme-homme. Et ce qui est marrant, c'est que c'est bien l'homme hein, qui met la femme ou l'enfant sur un piédestal, en fait. Et c'est ça qui est flippant aussi, qu'on ne se rend pas compte. Et ce qui va... L'idée de ce truc de piédestal, ça va être d'éviter tout contact de l'enfant avec le mâle. Donc ce qui va justifier une surveillance constante et une autorité constante aussi, ça va la légitimer. Et alors c'est pareil pour les femmes. C'est donc l'adoration qui sous-entend une future domination. Alors toujours dans ces parallèles entre le mythe de l'enfance et celui de la féminité, ils vont tous les deux être désignés à l'époque par des costumes ridicules encombrants. On peut noter qu'au Moyen-Âge, au moment de la séparation des classes enfants-adultes, les garçons passaient par 3 étapes de costume avant d'être associés aux hommes adultes. Donc ils passaient par les langes, qui étaient les vêtements de bébé, vous connaissez. Après, ils étaient habillés comme des femmes. Et après, ils étaient gradés. Et alors que les petites filles, elles passaient des langes directement au costume de femme, en fait. Donc elles avaient une étape. Et même à l'époque, à 9 ans, elles étaient considérées comme des femmes. Donc on pouvait abuser d'elles sexuellement, librement, à partir de 9 ans. Et alors ça me ramène aussi, parce que en fait, finalement, souvent, on va se rendre compte de ça. Là, on va parler de l'enfance, qu'il y a une espèce de domination adulte-enfant. Mais à l'intérieur de cette classe enfant, on va voir, quand on va parler de l'école, qu'il y a aussi des différentes classes, mais rien qu'à l'intérieur de l'enfant, au niveau mâle-femelle.
Il y a vraiment une éducation genrée, en fait.
C'est ça.
On s'occupe bien, déjà, de bien cloisonner les petites filles et les petits garçons. Et on se rend compte, il y a vraiment des études qui ont été faites, que c'est dès la naissance. C'est tellement ancré dans les mœurs, dans les représentations, les valeurs des gens et tout, que les petites filles sont fondamentalement différentes des petits garçons, que par exemple pour l'allaitement, on voit que les femmes, elles allaitent beaucoup plus en fait les petits garçons que les petites filles, et qu'on leur donne plus à manger aussi, donc ce qui fait que déjà physiquement ça les fait se développer plus rapidement les petits garçons que les petites filles. Donc c'est comme si on préparait déjà les enfants à développer plus de force physique pour les petits garçons et à être plus faibles pour les petites filles.
Puis des exemples comme ça, il y en a plein, en voilà, fait. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as vraiment ce truc de construction sociale dès la naissance, et à l'intérieur de cette construction sociale, donc qui est déjà l'enfance, il y a d'autres constructions sociales, celles du genre. Quoi.
Ouais.
C'est vraiment une masse de constructions sociales, je vous jure, c'est l'horreur. Et notamment, on peut voir avec des trucs vachement simplistes aujourd'hui. Dans les sphères de la consommation, tous les jouets qui vont être faits pour les petites filles, tous les jouets qui vont pouvoir être faits pour les petits garçons, vraiment passer dans un rayon. Là, c'était Noël, il n'y a pas longtemps, vous voyez clairement un rayon bleu et un rayon rose. Et ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin, évidemment. À l'intérieur du rayon rose, il n'y a que des trucs de pouponnage, de petites femmes au foyer, de madame la cuisinière. Puis tu vas dans le rayon des garçons.
Pour les préparer à leur rôle quand elles seront
c'est
adultes.
Pour et puis les garçons, c'est Action Man. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'horreur. Et puis, c'est un truc vraiment latent, quoi, qu'on va subir dès la plus petite enfance jusqu'à l'infini, quoi.
Et c'est vraiment ce truc pervers, c'est de faire croire aux enfants, en fait, que, par exemple, qu'ils aiment ça, que oui, qu'en tant que petit garçon, forcément, on n'aime que Action Man et surtout pas une poupée. Enfin, d'ailleurs, c'est un drame dès qu'un petit garçon réclame une poupée à Noël. On lui dit que vraiment, c'est pas pour lui, etc. Donc, c'est vraiment... Donc, déjà, on est enfermé, effectivement, dans le statut d'enfant, donc un statut de non-droit, etc. Mais en plus, là-dedans, on est enfermé dans des catégories où nos choix, ils sont déjà dictés d'avance, le type d'activité, le type de jeu, etc.
Ah ouais, c'est... C'est un peu l'angoisse.
Voilà, mais ça, je crois que sur l'idée de construction genrée, c'est quelque chose qu'on exprime régulièrement. Donc, c'est une problématique féministe plus large. Quoi.
Exactement. Donc là, on parlait de ce truc d'éducation genrée qui est assez forte. Moi, je vous invite à lire un livre, qui s'appelle Du côté des petites filles, qui a été écrit pour Elena Gani Bellotti, qui est un super bouquin et qui vraiment là...
Alors qu'on trouve plus, je pense, on trouve plus le bouquin en tant que tel parce qu'il n'a pas été réédité.
Mais sur internet, il y a moyen de le trouver.
Et sous forme de brochure, il existe sinon sur infokiosque.net, comme plein de brochures qu'on vous citera un peu au fur et à mesure de l'émission. Donc c'est infokiosque avec un K.net. Et voilà, donc sous forme de brochure, il y a des résumés de ce bouquin qui sont vraiment bien.
Ouais, puis ça vaut vraiment le coup si c'est un sujet qui vous intéresse aussi à des moments pour avoir des arguments durs comme fer. Alors, donc la femme et l'enfant. Donc là, moi, je parlais de, on parlait de l'habillement, des parallèles entre comment par les habits, il y avait encore des parallèles à faire entre domination des femmes et domination des enfants. Il y en a encore une autre à faire, c'est que tous les deux se voyaient octroyer des besognes spéciales, ainsi que les femmes et les enfants étaient considérés comme mentalement déficients. Il est trop petit pour comprendre, c'est une femme, elle ne peut pas comprendre. Donc femmes et enfants se voyaient donc dans l'obligation d'user de procédés correspondant à leur étiquetage pour réussir à se faire entendre, en fait. Parce que sinon, ils n'avaient aucune place pour parler, puisqu'ils étaient mentalement déficients, on ne les écoutait pas, il n'y avait pas de place, quoi. Et donc, ce qui est marrant, c'est de voir comment tu es obligé, en fait, d'user ton étiquetage pour réussir à te faire entendre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'enfant fait des colères. Oui, s'il fait des colères, c'est peut-être parce qu'il essaye de... Enfin, parce que c'est la seule place qu'on lui a laissée, finalement, pour pouvoir s'exprimer, c'est ça. Et comme pour une femme, on va dire qu'elle use des larmes. Oh, la voilà qui pleure encore à nouveau.
Ou de ses charmes aussi.
Ouais, ou des trucs de séduction. Mais c'est parce que c'est vraiment le seul truc qu'on leur laisse, quoi. Et le pire encore, tout ça, dans ces similitudes de mécanismes de domination, c'est que la femme et l'enfant vont se retrouver aussi dans une espèce de complexité de leur asservissement. Puisque le combat, moi, je le trouve assez difficile parce qu'il est enrobé de tout un tas de trucs un peu dégueulasses, quoi. Notamment enrobé de mots tels que charmant ou adorable, quoi. Là, on va lire un extrait qui est intéressant, qui parle de ça.
Alors, un enfant peut-il répondre à la tante stupide qui se précipite sur lui pour le cajoler ? Une femme peut-elle se permettre de froncer les sourcils lorsqu'un passant inconnu prend la liberté de l'importuner ? Lorsqu'il lui lance « Salut mignonne, ça va ?» Si elle lui répondait « Ça irait mieux si je te connaissais pas », il grommellerait « Qu'est-ce qu'elle a, cette pute ?» Très souvent, la véritable nature de ces remarques, apparemment aimables, se révèle lorsque la femme ou l'enfant ne sourit pas comme il se doit. « Vieille pouf, c'est toujours pas moi qui te baiserais, même si tu souris avec ta chatte. Sale petit morveux, si j'étais ton père, je te mettrais une raclée dont tu te souviendrais. » Leur violence est étonnante. Ces hommes en veulent à la femme ou à l'enfant de n'avoir pas été aimable. Comme cela les rend mal à l'aise de savoir que la femme, l'enfant, le noir ou l'ouvrier ronchonnent, les groupes asservis doivent paraître aimer leur servitude, sourire et minauder, même s'ils se sentent profondément malheureux. Le sourire de la femme ou de l'enfant indique l'acceptation par la victime de sa propre condition.
Burke.
Vous êtes toujours sur Dégenré 97 FM et ce soir donc c'est une émission qu'on pourrait résumer à pour l'abolition de l'enfance.
Ouais, c'est à peu près ça. Alors juste avant on parlait des différents parallèles entre le mythe de l'enfance et le mythe de la féminité. Il y en a encore plein, alors c'est pas fini. Et notamment notamment le fait que, enfin, un parallèle à faire des deux dominations entre femmes et enfants, ça va être l'assujettissement économique, en fait, le fait qu'il n'ait aucune dépendance, interdépendance économique.
Ouais, et donc par exemple, bah ouais, on reconnaît pas aux enfants comme autrefois et même encore maintenant. Des fois, on reconnaissait pas aux femmes le droit à subvenir à leurs propres besoins. Donc on oblige les enfants à être dépendants d'une famille, par exemple, et famille effectivement qui n'a pas choisi. Alors on peut, je pense qu'on pourra facilement nous rétorquer que quand même, heureusement que les enfants sont protégés en France, par exemple, alors que dans d'autres pays, ils travaillent dans la rue dès leur plus jeune âge, ils sont exploités un peu sauvagement, tout ça. Mais pour nous, je crois que les choses sont plus complexes et j'ai l'impression que c'est une logique plus générale et que quelque part, ben, ce qui devrait nous faire protester, c'est vraiment... c'est pas tant que les enfants soient exploités comme des adultes ou que les femmes soient exploitées comme des hommes, qu'effectivement c'est pas ça qu'on recherche, hein, bien sûr, mais que plus généralement il faudrait lutter pour que les êtres humains en général ne puissent pas être exploités.
Puis arrête de s'exploiter entre eux, quoi.
Voilà, je crois que c'est le combat, il est plus là. Et du coup, c'est pour ça que ça rejoint aussi des luttes anticapitalistes, hein, clairement. Et voilà, donc l'idée serait plutôt de se battre pour une société sans exploitation.
Et c'est pas gagné.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on va donc soi-disant protéger les enfants, comme on a souvent dit aussi qu'on protégeait les femmes en leur donnant pas le droit. Au début, elles n'avaient pas le droit de travailler. Après, elles n'avaient pas le droit à certains emplois, etc. Alors qu'en fait, on a fait d'eux un peu des esclaves qui n'ont pas leur liberté et leur capacité à choisir pour eux-mêmes. Et il semble vraiment que le pouvoir de se diriger soi-même est la base de toute liberté et que la dépendance à autrui, donc à une famille, à un mari ou quoi, est à l'origine de toute inégalité. Maintenir les enfants dans une dépendance économique, c'est vraiment bien un moyen de les enfermer, de les rendre vulnérables et notamment donc aux violences familiales. Alors, il y a donc quelqu'un comme Christiane Rochefort, donc, qui est aussi un nom à retenir parce qu'elle a écrit, notamment un essai passionnant qui s'appelle « Les enfants d'abord », qui remet en question justement toute cette notion d'enfance. Elle a des propositions concrètes comme une sorte de revenu minimum pour vivre qui serait assuré aux enfants pour qu'ils puissent être autonome s'il le souhaite, sans être obligé de se faire exploiter, quoi.
Ouais, on veut du fric.
Ouais.
Alors, moi, je pense qu'effectivement, ça changerait pas mal de choses si on n'était pas dépendant économiquement de nos parents. Et il y en a même encore aujourd'hui qui sont dépendants économiquement de leurs parents. C'est pour dire. Tous ces parallèles, ça constitue quand même une division très forte et des constructions de rôles strictement bien définies, quoi. Et alors, c'est aussi cette énorme division qui va faire qu'on va retrouver une bonne entente entre les groupes oppressés. C'est bizarre, mais comme les enfants ensemble aiment à des moments être en groupe, et ça me fait penser à la non-mixité, en fait, aussi. À un moment donné, pourquoi... Et à des moments, on nous demande de justifier... nous, parce que c'est un concept qu'on aime vivre souvent, c'est aussi parce que vraiment, en fait, il y a cette histoire-là qui nous est commune et c'est hyper important, en fait. Et ça fait qu'on a une manière de se parler qui va être vraiment différente de celle de quand on va être mélangé, dominé, dominant, quoi.
Ouais.
Ce qui parallèlement va... Enfin, quand on va se retrouver à s'adresser à la classe des dominants, on va voir que va s'opérer des changements de comportement, en fait. C'est un peu des rapports pervers, en fait, quand...
C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, quand on est en rapport avec une classe dominante, il faut avoir des stratégies pour s'en sortir, en fait. Donc, soit des stratégies de séduction ou des stratégies... de se mettre en colère, mais en évitant la répression, etc. Donc c'est dur d'être dans des rapports juste simples et égalitaires, quoi. D'où effectivement l'intérêt d'outils comme la non-mixité qui sont dénoncés pour, par un peu, vous savez, les bons citoyens, la démocratie, tout ça, comme des retours en arrière. Alors qu'il nous semble que nous, c'est parfois, ça peut être des outils vraiment émancipateurs quand c'est choisi, quand c'est une non-mixité qui n'est pas imposée par l'État dans l'école comme avant ou quoi, quand c'est une non-mixité choisie par les gens eux-mêmes pour parler de leur oppression et pour s'en libérer et pour faire péter les cadres, quoi.
C'est ça, puis soyons des sales gosses et puis ne nous imposons rien ou n'imposons rien ou ne nous faisons rien imposer par les autres. Oula. Et alors cette culture de classe, c'est cette culture de classe qui a permis finalement de créer et de faciliter les clichés de manière à ce qu'elles deviennent naturelles et instinctives d'une espèce divisée en classes avec des codes et des lois et des conduites particulières. Je ne comprendrai jamais les femmes, vous ne connaissez rien à la psychologie des enfants, blablabla. Après, il va y avoir une espèce d'exaltation du mythe et de la féminité et de l'enfance. Et ça va être aussi un truc, enfin, ça va être aussi un instrument de suggestion.
Oui, bah c'est vraiment cette idée qu'on évoquait déjà tout à l'heure, que pour dominer les gens, bah, y a soit une manière, c'est de les rabaisser, de dire que c'est des moins que rien, de toute façon ils valent pas la peine d'être entendus, machin. Ou il y a le truc inverse qui est de dire « Ah, les femmes sont tellement belles, sont tellement magnifiques, tout ça, surtout il faut pas les toucher, il faut pas, elles seraient au-dessus de tout ». Mais du coup, elles sont même au-dessus de la réalité et finalement, elles n'ont pas de prise dans la réalité, par exemple.
Et à un moment donné, les femmes, elles ont dit « Ya basta, il y en a marre ». Et alors, pendant l'ère victorienne, et ça date, hein, elles vont se révolter pour mettre fin aux mythes parce qu'elles en ont marre des mythes. Mais comme beaucoup de révoltes, c'est une révolte qui va être laminée, qui va être brisée. Ce qui va faire en fait que les mythes sur l'enfance, notamment, et la féminité, évidemment, vont revenir d'une manière plus insidieuse et plus compliquée, notamment à cause de la société de consommation, en fait. Et alors, tous les signes d'autorité ou de surveillance disciplinaire extérieure vont être abolis. Donc, on arrête de porter des costumes d'époque. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, là, avec l'histoire des trois changes et tout ça, machin, ça, c'est fini. Le maître, il a plus sa canne. Enfin, en tout cas, visuellement... on voit plus trop, mais en fait, les charges latentes, elles sont hyper lourdes, quoi. Et notamment, d'autant plus perverses. C'est toujours ce même truc, en fait, hein, de démocratie, finalement.
Oui, et dans notre société de consommation, clairement, il y a vraiment, par exemple, sur l'enfance, il y a vraiment quelque chose qui est considéré comme magique, sublime, etc. C'est le fait d'avoir un enfant. Donc déjà, c'est le terme avoir, hein, donc il s'agit bien d'une propriété. Et donc, avoir un enfant, c'est tellement beau. D'ailleurs, il y a des boutiques entières consacrées au fait d'avoir des bébés, etc. Donc c'est vraiment un bon marché et un statut encensé, en fait, celui de l'enfant à venir, quoi.
Ouais, c'est ça. Et alors, ça va aller loin, en fait. Ça va aller loin, tout ce truc de particularité de l'enfance, en fait, parce que ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va y avoir la création de spécialistes pour étudier ces petits êtres particuliers, donc des pédiatres, des psychiatres et tout ça, machin. Et alors, ces spécialistes, en ce moment, hein, ils font un ravage. Ils sont super parce qu'en ce moment, on a des gros problèmes de délinquance dans notre société. Hein, on ne sait pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Et ce qui fait que pas mal d'enfants, là, en ce moment, plein d'enfants à l'époque, déjà dans les années 70 et tout ça, c'est un truc qui commençait, même un peu avant, qui commençait à arriver. Et notamment des médocs contre l'hyperactivité des enfants. Donc là, moi, je parle d'aujourd'hui, mais aussi d'il y a plus tard, mais aujourd'hui, c'est vraiment un truc d'actualité. Donc on va considérer les enfants hyperactifs. Donc l'hyperactivité, ça va vouloir dire des enfants qui sont inattentionnés, qui sont agités et qui sont impulsifs. Et ça, là, ça va être considéré, ces trois trucs que je viens de dire, comme des troubles mentaux, quoi. Faut quand même... Moi, je trouve ça grave, en fait. Je me dis, non, mais attends, quoi.
En gros, c'est tout comportement un peu... Enfin, où les gens se sentent un peu libres et prennent de la place et tout, et ben c'est considéré comme une pathologie, quoi.
C'est ça, comme... Alors, aussi, il y a ce truc de troubles de lecture, troubles du calcul et troubles de l'expression écrite. Alors, moi, je suis désolée, je suis débile mentale depuis que je suis née. Et je suis bien contente de ne pas avoir pris de Rétaline. Et notamment, si on se renseigne un peu sur la Rétaline, c'est un gros business. Hein. C'est un truc de ouf malade. À peu près 6 000 enfants sous Rétaline en France. 6 millions aux États-Unis. Et alors, c'est un truc qui est en train, de, qui est en train d'augmenter et tout ça, machin. Et c'est un truc afrique, quoi. Comme n'importe quelle industrie médicamenteuse. Mais là, c'est quand même un truc afrique aussi. Genre,
pharmaceutique, quoi.
Mais... 350 millions de dollars. Un truc comme ça. Moi, ça représente un peu rien pour moi dans ma tête. Mais quand même, je trouve ça fou,
c'est
quoi.
Monumental, quoi.
À fond. Et donc ça, ça va aussi avec un système de répression et un système de surveillance disciplinaire pour les enfants, dont on vous parlera plus tard à la fin de l'émission. Alors, dans ce truc de spécialisé, il y a aussi la création d'un réseau de consommation spécialisé qui va se créer. D'ailleurs, qui va accentuer la distinction des divertissements entre adultes et enfants, qui était vachement moins distincte à l'époque du Moyen-Âge, et qui se rattache évidemment aussi au développement de la bourgeoisie. Alors, il va y avoir la création de ce que tu disais tout à l'heure, Hélène,
Du marché de l'enfance. Ouais.
Donc, création de jeux spécialisés, littérature enfantine spécialisée, langage particulier. On m'a dit que je te parle comme si t'étais débile.
Compte en banque aussi. Les banques, maintenant, elles ciblent aussi les enfants pour ouvrir des comptes, pour mettre de l'argent et tout. Ce qu'il faut bien augmenter.
Ce qui est un peu pervers, finalement, parce qu'ils n'ont pas trop d'argent. Enfin bon.
Ils n'en disposent pas, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est bloqué, ouais.
Et puis aussi, tant qu'à faire, un établissement de catégorie de pensée, quoi. Donc ça intéresse les enfants, ça, ça intéresse les adultes, ça, ça intéresse les femmes, ça intéresse les hommes. C'est vraiment effrayant, quoi.
Ouais, c'est contre l'ouverture d'esprit, quoi. On te dit déjà ce qui doit t'intéresser.
C'est ça. Ce qui va, renforcer parallèlement le mythe de l'adulte aussi, en fait, ce truc où moi je me suis déjà souvent entendu dire sois un peu adulte, Dino. ça veut dire quoi? Ça voudrait que dire peut-être que je devrais être sérieuse, m'ennuyer énormément, travailler, être responsable, puis moi aussi faire des enfants après tout.
Et pas te poser,
je suis une
pas
femme,
te poser de questions.
Et pas me poser de questions, non, les questions.
Non, parce que justement, c'est être adulte, c'est surtout pas se remettre en question, pas te dire qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais les bons choix, tout ça,
ça c'est mal.
Ouais.
Et alors, bom, 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 on continue. Alors, la publicité, hein, bel outil de notre société de consommation, la publicité va aussi cogner là-dedans. Elle va jouer sur l'image que doit représenter l'enfant et la femme. Vous connaissez bien le petit enfant Kinder resplendissant. Tous les parents rêvent d'avoir un enfant qui ressemble au petit enfant Kinder. Faites des sondages. Des sondages et vous verrez que tout le monde rêve d'avoir un petit enfant Kinder. Ou alors une femme aussi sexy que la dernière publicité pour les dessous de chez Marc Sou. C'est vraiment sympa. Hein. Donc, les exploités, femmes et enfants sont exploités aussi en tant que consommateurs et consommatrices et en sont aussi l'objet. Enfin,
voilà, c'est ça. Et en même temps, en leur faisant toujours croire que c'est leur liberté, en fait, qu'ils sont libres de consommer et que c'est, voilà, et que ça les rend heureux, quoi.
C'est ça. Alors, on va écouter une petite chanson.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait se passer Anne Sylvestre? Parce que. Pour nous, c'est quelqu'un de vachement, une chanteuse vachement intéressante, parce que justement, elle a chanté pour tout le monde, pour les enfants, pour les grands, et puis on s'en fout un peu de savoir, et qu'elle a vachement justement cette dimension du jeu, et de se dire que voilà, c'est une dimension importante dans la vie, parce que si ce monde était tout le temps sérieux, on s'en sortirait pas, quoi.
Puis aussi parce qu'après on va continuer à parler du mythe du bonheur qu'on inflige sur l'enfant, et elle dit laissez les enfants pleurer.
V'là que la poule aux œufs d'or veut garder son trésor. V'là que la gallinacée veut plus se faire trousser les fatigues et de pondre. Fatiguée de se faire tondre les plumes sur le dos, d'aligner les cadeaux pour se faire pardonner d'avoir le cul doré. La poulette, elle a mal, elle a mal au trou de balle, car toujours est le pont, 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 car toujours est le pont. Elle se dit pourquoi ponge, cette question la ronge. Plus elle se morfond, plus on lui répond pom, 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 pom.
chanson.
Mais on vous fait un petit medley d'Anne Sylvestre, c'est parce que c'est bien.
Ouais, c'est ça. On remet la bonne. Attention. Ça y est, c'est celle-là.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave et le désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Donc Dégenré, 97 FM et aussi sur sur Kaléidoscope 97 FM et aussi sur internet à www.radiokaleidoscope.
Oh, c'est bon, on a compris.
.net. Bah non, mais c'est bien parce qu'on peut les écouter en direct, par exemple, si un jour vous n'êtes pas à Grenoble et que vous avez envie de nous écouter.
Non.
Et bah vous pouvez écouter en direct. Alors c'est bien aussi.
Et alors, donc, merci Anne-Sylvestre. Ouais, laissez les enfants pleurer.
Et alors oui, Anne-Sylvestre, quand même, j'avais envie de dire qu'elle passe à l'amphithéâtre de Pont-de-Claix le 29 avril prochain. Et que vraiment, là-bas, il suffit de dire j'ai pas de sous, voilà. Il n'y en a pas besoin de présenter un papier, on paye la place 5 euros. Alors vraiment, elle a des chansons chouettes et ça vaut le coup d'aller l'écouter, je trouve.
C'est vrai qu'elle a des chansons chouettes.
Et des fois, elles ont plus la pêche que celle-ci.
Et alors ouais, je disais donc, laissez les enfants pleurer, laissez-le arrêter de leur coller cette espèce d'image de l'incarnation du bonheur, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, les enfants, ils grandissent aussi au milieu de la cellule familiale, comme on parlait tout à l'heure, une cellule familiale qui est souvent violente, en fait, par rapport... à tous les rapports de domination qu'il y a à l'intérieur. Elle est souvent aussi violente à l'intérieur de l'école par rapport à tous les rapports de domination qu'il y a à l'intérieur. Donc l'enfant, c'est aussi des moments où on est triste. Et arrêter vraiment de coller cette incarnation du bonheur, quoi.
Et moi, je me souviens de toutes les angoisses que j'avais étant gamine, de tous les cauchemars que je faisais. Mais moi, tous les soirs, en fait, je faisais des cauchemars. Et je pense que c'était toute la violence du monde qui me remontait au moment de m'endormir. Et vraiment, j'ai pas l'impression que c'était une période de naïveté.
Tu te souviens pas de la fois où, avec papa, on était à la plage ? Oh, c'était tellement bien ! Et puis cette fois où on est monté assis sur la balançoire, c'était tellement génial ! Non, mais franchement, hein ? Hein ? L'enfance, c'est l'âge d'or où peut-être que le petit-fils chéri rêve effectivement de pouvoir devenir un robot comme papa. c'est passionnant. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc, c'est le bonheur et tout ça. Même que tellement c'est le bonheur, à l'intérieur des centres-villes, même près des cités, hein, y a des petits parcs qui sont faits justement pour partager ces moments de bonheur avec d'autres enfants. Hein. Donc, y a des espaces spécifiques urbains. Des petits parcs, il y a même des toboggans des fois, hein. C'est sensationnel, hein. Vraiment les toboggans, génial. Alors, les petits parcs, je pense que c'est un peu une parfaite image de la ségrégation des âges, quoi. Il y a des terrains de jeu pour ces tendres intouchables d'enfants, des piscines pour les plus grands, des talus ombreux pour les jeunes couples et les étudiants.
Des boîtes de nuit.
Ouais. Et puis des bancs pour les vieux. Ah ouais, des bancs pour les vieux, c'est génial. Hein. Alors,
c'est super. C'est vrai que dans l'espace public, il y a vraiment comme ça... des cloisonnements très forts.
Donc toute la vie de l'individu est soumise à cette ségrégation, d'où le fait que l'enfant répète sans cesse ses schémas. Et ouais, moi ça m'étonne pas en fait. Je suis pas étonnée de voir un enfant dire à un autre enfant « Eh vas-y, pot de colle, va jouer avec ceux de ton âge !» C'est aussi ce truc dont on parlait tout à l'heure en fait. Ben, ils ont grandi dans ces états, enfin ils ont grandi avec cette espèce de culture et ils sont dans cette culture. Donc eux aussi à un moment donné ils se retrouvent à se désolidariser en fait de leur classe, finalement, de leur classe sociale, qui va être les enfants, là, dans ce qu'on parle, quoi.
Ouais, puis c'est aussi tout ce rapport où, quand tu t'en es pris plein la gueule, en fait, de la part, que ce soit de la part, justement, de ta famille, ou des grands, ou je sais pas, et ben, t'as besoin d'évacuer aussi tout ce que tu t'es pris, tout ce que tu t'es pris de dur en face, quoi. Et du coup, bah, tu le reproduis et tu l'évacues sur les plus faibles que toi, quoi.
Exactement. Pour ce...
Sardine et crocodile et crocodrin, je viens, et ratiti, et ratiatia, sardine et crocodile et crocodrin, je viens, ce ne sera pas toi le chat. Sardine et crocodile et crocodrin, je viens, et ratiti, et ratiatia, sardine et crocodile et crocodrin, je viens, ce ne sera pas toi le chat.
Alors c'était débile, c'était juste pour un petit moment. Alors du coup là on va continuer sur l'école, c'est ça déjà?
Et ben ouais, parmi tous ces outils de ségrégation, il y a quand même un outil central et qui enferme quand même les enfants pendant une quinzaine d'années de leur vie, au moins, au minimum. Quoi.
C'est ça. Et alors pour finir sur ces notions d'histoire, quand on parlait tout à l'heure petit à petit de tout ce qui a fait vraiment l'assujettissement des enfants, c'est quand même l'école moderne qui va faire de l'idée d'enfance une réalité. L'école va en effet devenir l'instrument normal de l'initiation sociale et de l'évolution de l'enfant à l'âge d'homme. D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant des siècles, ceux qui ne devaient pas acquérir le véritable statut d'adulte, eh ben, ils n'allèrent pas à l'école. Et c'est qui ? C'est les femmes et les classes laborieuses. Alors la discipline, ça va devenir le leitmotiv de l'instruction, bien plus que la transmission des connaissances. Et forcément, de ça découle un manque de respect croissant et une sous-estimation systématique des capacités de l'enfant. Et donc, l'école.
L'école, on entend souvent, oui, l'école est obligatoire. Alors, effectivement, c'est l'idée qui est répandue, alors qu'il faut bien repréciser que ce qui est obligatoire, c'est de donner une instruction aux enfants, mais que ça peut prendre plein de formes différentes. Et pourtant, c'est, voilà, dans l'esprit des gens, c'est l'école qui est obligatoire. Et c'est pas étonnant, en fait. Parce que c'est bien la société, l'État, etc., qui tient à perpétuer cette idée. Et alors, je pense que c'est assez clair que c'est pas pour l'intérêt des enfants eux-mêmes, mais bien, c'est bien au service, justement, de cette société, de nos États. Alors ainsi, on va vanter, par exemple, les mérites de l'école gratuite et obligatoire de Jules Ferry, soi-disant pour éduquer les masses. Alors que quand on lit notamment son discours donc, de Jules Ferry là, à l'époque, ben, on se rend vite compte que l'objectif de cet homme politique, c'était pas du tout d'offrir aux classes défavorisées une éducation, mais bien de fournir aux industries du pays une main-d'œuvre, un minimum qualifié, qui leur manquait cruellement donc, à l'époque. Donc ça, c'était il y a plus d'un siècle. Toi, tu avais une citation du discours de Jules Ferry,
une petite citation du discours de Jules Ferry qui, je trouve, assez marquante. Donc, on l'appelait quand même le libérateur des petits-enfants, ce connard. Et alors, il disait que l'État s'occupait de l'éducation. Donc, il disait « pour y maintenir une certaine morale d'État, certaines doctrines d'État qui importent à sa conservation ».
Voilà, donc il était très clair sur la mission de l'école. Et depuis lors, la mission éducatrice de l'école, elle s'est toujours limitée, quoi qu'on en dise, à répondre aux besoins de la société. Et ça n'a jamais été de donner des outils aux enfants pour s'émanciper, pour être un minimum bien dans leur vie ou quoi. Et donc, c'est complètement d'actualité, hein, notamment aujourd'hui avec la loi Pécresse sur la réforme de l'université, où l'idée, c'est bien que l'université forme encore plus les jeunes au travail en entreprise et surtout pas à réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc vraiment, jeter un œil à la loi Pécresse, c'est assez parlant. Et donc, sur toutes ces questions-là, c'est vraiment intéressant de lire le livre de Catherine Baker, dont était extraite la citation de Jules Ferry, qui s'appelle « Insoumission à l'école obligatoire ». Donc, c'est un bouquin qui dit bien ce qu'il veut dire et qui est très, très agréable à lire.
Qui est vieux et pourtant, moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps et ça
parle toujours autant.
Ça parle toujours autant, ouais. Et vraiment, il est riche. Moi, je vous l'invite vraiment à le lire parce que... Ça te retourne le cerveau un peu.
Ouais. Alors, Catherine Baker, elle nous dit « À l'école, c'est primaire, mais nécessaire de le répéter, on apprend à obéir. Instit, prof, pion, conseiller d'éducation, proviseur, tous ont comme première fonction de sauvegarder l'ordre et la discipline. Dans certaines classes, on vise à obtenir des gestionnaires, sachant compter jusqu'à deux. Alors, on peut pratiquer le travail en équipe et tel ou tel simulacre de participation. » Mais ce sont des fioritures de papier crépon. L'essentiel est d'ordre disciplinaire. Il ne peut en être autrement. Et c'est pourquoi l'État concède à l'éducation nationale le premier budget civil de la nation. Qui oserait dire que c'est par respect de la culture se verrait ridiculisé par la comparaison même du budget de la dite culture avec celui de l'école, qui en est nécessairement bien séparé. Tous les ans, alors donc ça c'était remonte à quelques années, il faudrait voir les chiffres actuels, mais bon. Tous les ans, 80 000 Français, sachant à peine reconnaître leurs lettres, quittent les classes. Il suffira de 4 à 5 ans pour qu'ils viennent grossir les rangs des 2 millions d'illettrés français. Ceux qui gouvernent nos vies ne sont pas hostiles par principe à la transmission de certains savoirs. Simplement, ils ont d'autres priorités en ce qui concerne l'éducation nationalisée des enfants. Le problème, c'est que ni toi ni moi n'avons les mêmes intérêts qu'eux à défendre. Tout est là. Donc voilà, soyons clairs, les intérêts que défendent l'État et son éducation nationale, c'est bien des intérêts capitalistes. Ouais.
Capitaliste.
Voilà.
Oui, maître.
Et après,
oui,
si,
maître.
Ouais, c'est ça. Et si on se penche sur les apprentissages en eux-mêmes, puisqu'on nous dit quand même. Non, mais maintenant, il y a quand même des écoles avec des pédagogies alternatives, et puis même la pédagogie évolue, tout ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même des nombreux pédagogues qui ont démontré que l'école, par son côté fermé sur elle-même, organisée en classe d'âge, etc., n'est pas du tout une structure pertinente pour l'apprentissage. Et par exemple, il y a Christiane Rochefort, qui est une autre auteure dont on vous parlait tout à l'heure, donc, qui a écrit Les enfants d'abord, mais qui a aussi écrit plein de romans, des histoires vachement chouettes sur des enfants qui s'émancipent un peu par eux-mêmes. Et donc elle explique bien que pour être réellement en situation d'apprentissage, un individu doit pouvoir transmettre des savoirs autant qu'on lui en transmet. Et c'est ce qui lui permet de se sentir acteur et non pas passif. Et donc, c'est ce qui lui permet de vraiment intégrer des nouveaux savoirs. Donc, il semblerait beaucoup plus riche, dans ce sens-là, que les gens soient mélangés, adultes et enfants de tous âges, de tous milieux, pour que les apprentissages soient vraiment riches et assimilables. Donc, on voit bien que l'école, ses objectifs donc, sont de servir l'État, l'industrie, etc., Et puis que sa structure même est pas du tout propice à l'apprentissage. Donc il y a vraiment un souci d'enfermer les enfants dans cette structure, quoi.
C'est un peu l'horreur quand même, l'école. Hein. Enfin, si on y réfléchit tous un petit peu, et notamment si on se lit ce bouquin, non, parce qu'on n'a pas besoin de lire ce bouquin pour se rendre compte à quel point c'est horrible, mais...
Ouais. Et j'ai oublié un petit passage qui est aussi qui sur l'école quand même, qui est assez intéressant aussi, où on voit qu'un des principaux ressorts utilisés pour formater les enfants à l'école, et ben c'est la peur.
Et, la peur.
Ouais. Et elle a un petit extrait aussi, Catherine Baker, qui est édifiant là-dessus.
Le pouvoir peut braquer le projecteur sur n'importe quel enfant, à n'importe quel moment. Que faites-vous ? Comment être assez détendu pour dire tranquillement « ça ne vous regarde pas » ? Ce qui est forcément la seule réponse correcte si l'on veut garder son intégrité dans le réseau où sont intriquées toutes les surveillances qui s'exercent sur vous. Les surveillants eux-mêmes sont surveillés, les professeurs aussi, le directeur aussi. Il faut surveiller, il faut se surveiller les uns les autres, il faut se surveiller soi-même. Tout le monde vit dans l'appréhension de la punition et se défoule sur l'élève. Je n'évoquerai même pas les fessées déculottées qui sont loin d'avoir disparu. N'est-ce pas, Geneviève ? Je pense que c'est un petit clin d'œil à une méchante institutrice. Mais toute punition se veut humiliante et n'importe quel adulte, comme tout enfant, mourrait de honte si on le fessait cul nu devant 30 collègues. N'importe quel adulte rougirait ou pâlirait si on lui faisait remarquer devant ses voisins qu'il ne sait pas grand-chose. Et n'importe quel adulte aurait envie de tuer si on lui ordonnait de lire à voix haute, en public, la lettre qu'il a écrite à son amante ou son amant pendant ses heures de bureau. Et là, c'est un exemple qui est assez fracassant, parce qu'il montre vraiment que cette histoire de trouille et de domination, elle va partout, quoi.
Voilà, et du coup, nous, il nous semble toujours intéressant de... je dirais de démonter, de déconstruire tout ça, les rapports de domination en général, et il se trouve que l'école est vraiment un bon lieu qui véhicule tout ça. Alors on va se faire une petite pause musicale. Alors on n'a qu'à écouter ce qu'il y a dans la machine, et puis on vous en dira plus après.
Deux cents dans l'atelier, chacune sa machine. Les heures défilent comme des pièces sur le tapis roulant. Tiens, y a le petit dernier qu'il faut faire vacciner. Bon Dieu, mon fils qui vient encore de se casser.
Comment je vais me débrouiller pour faire mon compte de chemisier?
Je laisserai bien tout tomber, merde à contre-dame. Tant de choses ont changé depuis que l'on n'a plus. C'est en se battant, pensant qu'on a fait connaissance. Chacune a su trouver son propre rythme. L'atelier s'est retrouvé complètement bouleversé.
Avec le temps de le savourer,
voir un peu les enfants au lieu des expédiés. 20 ans d'usine, Suzy, à rester dans ton coin. Mais ça ne sera plus possible de reprendre comme avant. Tout ce qui remonte, bon sang, quand on y repense. Tous les copains, partout, les grèves qui se déclenchent. Ce qu'on a forgé ici, personne pourra le détruire.
C'est une chanson des années 70 qu'on vous a déjà passée.
Qu'elle est belle.
Ouais, puis c'est vrai que l'école, c'est un peu comme l'usine, quoi. Ça lobotomise un peu.
C'est clair. C'est clair. Bon, on pourrait vous parler des heures encore. Des heures et des heures de l'école, tellement on la déteste fort et tellement elle s'est imprégnée de nous pendant longtemps. On est tous au moins passés minimum par 15 ans de prison, j'allais dire, mais 15 ans d'école, pardon. Alors c'est clair que les enfants sont soumis à une surveillance de type disciplinaire, et c'est marrant parce que on se rend compte que on passe de surveillance à répression. Là, en ce moment, depuis un bout de temps, il y a une répression forte des enfants. Alors, c'est marrant parce qu'on dit que les enfants... c'est des êtres de non-droit, donc ils ont le droit de rien, en fait. Effectivement, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'argent, ils n'ont pas le droit d'aller voter, ils n'ont pas le droit de plein de trucs. Mais par contre, ils ont le droit de subir la répression. Mmh. Et donc, ça fait longtemps, quand même, y a eu les maisons de correction et tout ça, machin. Il y a eu des protestations qui font que les maisons de correction, elles ont fermé. Mais ce qui est marrant, c'est que toujours ce truc-là, quoi. Il y a des maisons de correction qui ferment, effectivement, mais... d'une manière insidieuse, qu'est-ce qui naît ? Des tonnes de nouvelles maisons de correction, les unes plus baraques que les autres, et des lois de plus en plus horribles.
Et ce qui est fou, en plus, c'est que tous les bilans, mais que ça remonte à presque des centaines d'années, tous les bilans des maisons de correction, de redressement, ou tout ce qu'on veut, ont toujours été finalement hyper négatifs. Et pourtant, ils ont continué à créer ça, quoi.
Ouais, d'ailleurs, je vous invite à lire un envolé qui date quand même, je pense, de l'année dernière.
Donc, c'est une revue sur les tôles, l'enfermement, tout ça,
ouais,
l'envolé.
Une revue anticarcérale qui fait un petit dossier junior. Et il y a des super témoignages sur les maisons de correction et sur l'absurdité, en fait, du système de la punition, en fait. Et notamment encore, on peut citer Catherine Baker qui a écrit un livre sur pourquoi faudrait-il punir, qui est intéressant aussi, vu qu'on a parlé d'elle tout à l'heure et tout ça. Bon, enfin, bref, en ce moment, c'est super. Alors, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez des lois Perben qui sont arrivées vers 2002, donc c'est les lois Perben 1, qui signaient un peu la mise en œuvre et l'ouverture de centres fermés pour mineurs. Donc, c'était un projet de la gauche plurielle. Super ! Donc, alors, en 2003, Sarkozy, qui était à l'époque simplement ministre de l'Intérieur, veut légiférer les lois sur la délinquance, et notamment ce truc du secret partagé. Donc c'est la remise en question du secret professionnel, donc pour la prévention de la délinquance, bien sûr.
Donc ça, vous en avez parlé en fait au moment des émissions sur les femmes et la précarité, parce que voilà, c'est toutes les, en gros, c'est les familles qui sont en galère ou quoi, qui sont stigmatisés, et donc effectivement leurs enfants aussi, quoi.
Ouais, c'est ça. Ce qui va quand même faire que le professeur par exemple, va se retrouver dans une situation d'indic, de délateur et d'auxiliaire à la police.
Ouais, les éduques et tout ça, quoi, aussi.
À l'intérieur de ce truc-là, ce projet de loi, il y a aussi la mise en place de cadets de police dès l'âge de 17 ans. Super !
Déjà que les flics plus âgés sont... souvent ont du mal à gérer une arme, et parfois comme ça tirent à l'aveuglette. Alors on imagine à 17 ans sans formation et tout ce que ça peut donner, quoi.
Puis surtout après avoir joué à tous ces jeux vidéo où tu peux buter tout le monde, franchement. Bon, bref, alors à tout ça aussi, donc ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux cellules familiales, va y avoir aussi des petits stages de parentalité, hein, parce que y a pas mille manières d'être parent, hein. Il faut être un parent bien pour que son enfant soit docile et épouse l'État d'une manière splendide, homogène, quoi.
Donc des petits stages. On va redresser aussi les parents déviants.
Avec des petites valeurs patriotiques et républicaines, hein. On aime tellement ça. Bon, bref, ce texte de loi, il va être réécrit par un connard qui s'appelle Benisti, mais qui n'est pas plus connard que les autres, finalement. Mais alors, lui, il va aller un peu trop loin, en fait, dans son texte. On va lui dire, oulala, ça passera jamais, c'est un peu trop gros. Alors, on va calmer, on va mettre un peu en sommeil, les lois Perben, en attendant qu'on les met en sommeil, va y avoir des grands débats sur l'éducation pendant ce temps-là, et des débats qui vont forcément être hermétiques. Donc c'est histoire de préparer la population à une idée.
Oui, puis c'est toujours des pseudo-débats, en fait, où on invite que des spécialistes qui vont dans le sens du gouvernement, tout ça, quoi.
C'est ça, c'est juste faire un coup médiatique histoire de pouvoir faire accepter l'idée petit à petit. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pouf pouf pouf, ça revient sur le tapis, du coup, ces histoires de prévention de la délinquance, mais cette fois-ci avec Pécresse et Bloche, on va parler de protection de l'enfance. Comme ça, on est un peu plus tendre, quoi. C'est un peu moins violent. Alors en 2006, il n'y a toujours pas vraiment de loi, et pourtant les enseignants se voient déjà dans l'obligation de transmettre le nom des enfants inscrits dans les établissements, ce qui est vraiment abominable dans la chasse aux sans-papiers, en fait.
Voilà, sachant qu'il y a quand même plein d'enseignants, enfin normalement c'est les directrices et directeurs d'école qui sont tenus de faire ça Voilà, et il y a eu quand même pas mal de mouvements de révolte, comme quoi les professionnels peuvent se révolter contre ces lois à la con. D'ailleurs, comme chez les éducs, assistantes sociales et tout, il y a eu aussi des révoltes sur le flicage des gens et la délation et tout. Donc vraiment, ça, je pense que c'est un mot d'ordre, révoltons-nous contre toutes ces lois.
Ouais, c'est ça. Et puis donc, c'est ce que tu disais, les pratiques délatoires, elles vont se multiplier et il y a des accords ministériels qui légalisent la délation, en fait. Alors, on continue toujours. En février 2004, aussi, l'absentéisme scolaire relève des tribunaux. Alors, ça, c'est le bouquet, quoi. Moi, j'ai pas encore entendu vraiment parler d'histoire comme ça, mais alors...
Ça va venir, quoi.
Brûlez vos écoles, quoi. Vraiment, brûlez vos écoles, quoi. Donc, à tout ça se rajoutent des trucs aussi. Donc là, tout à l'heure, on parlait des lois Perben, donc, qui sont pas encore, en 2006, vraiment mises à jour, mais quand même, c'est pareil. Les parents, dits déficients, vont pouvoir écoper de 750 euros d'amende. Merci.
Donc des, voilà, aussi des familles qui déjà n'ont pas forcément de gros revenus, tout ça, et hop, on va les enfoncer avec
notamment
des amendes.
Ouais, des familles
tout,
qui galèrent, quoi. Ouais. C'est un peu la vérité, quoi. Et aussi, depuis 2006, il y a un lien qui est fait entre établissement et comigo, commissariat de secteur, et donc il y a un article qui fait qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un d'un établissement qui soit en lien avec une personne du commissariat de secteur. C'est quand même dingue, quoi. Et même en 2005, à Marseille, c'est obligatoire qu'il y ait un flic à l'école. Ce que je trouve fou aussi. Alors, tout ça, ça continue. Et de plus en plus, il est prévu de développer la vidéosurveillance et d'instaurer la biométrie, qui va être, un bon moyen de l'insérer à l'école, hein, ce qui va être un bon moyen de banaliser les pratiques sécuritaires high-tech. Et puis finalement...
De faire marcher l'industrie aussi, parce que c'est pareil, hein, c'est des gros lobbies économiques, quoi, toute l'industrie de la vidéosurveillance, de toutes ces installations biométriques et tout, quoi.
Oui, puis de faire accepter ce genre de pratiques d'identification par l'habitude, quoi.
Alors au quotidien, dès l'école. Peut-être ça vaut le coup d'expliquer donc, la biométrie, parce que c'est un concept un petit peu nouveau. C'est toute la reconnaissance, en fait, d'un individu par des trucs physiques, en fait. Donc, par exemple, par ses empreintes digitales ou par son iris de l'œil. Donc, c'est des machines où il faut, voilà, qui vont capter l'iris de ton œil ou ton empreinte digitale. Voilà.
Donc, ça, c'est aussi... c'est un peu la nouvelle... Le nouveau truc, quoi. Donc en 2007, c'est cette logique sécuritaire qui va continuer. À ça va aussi être associée la création de CEF, donc des centres fermés.
Centres éducatifs fermés. Parce que ça va de pair, en fait. La notion d'éducation et la notion de répression, c'est vraiment associé, quoi.
Donc il va y avoir un CEF par département, ce qui va faire... 600 nouvelles places, et c'est pas fini, aussi des EPM, donc un EPM c'est...
un établissement pénitentiaire pour mineurs.
Exactement. Et il y a une création, il y en a 7 qui vont être construits, et donc je me rappelle plus combien ça rajoute de places, mais bref, un EPM c'est 60 places en plus. Du coup, ça fait vraiment beaucoup de place, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que pas parce qu'il y a des nouveaux EPM qui ouvrent, des nouvelles prisons pour mineurs qui vont ouvrir, que d'autres vont fermer, quoi. C'est vraiment une addition, quoi.
Mais de toute façon, vu que tout devient... tous les petits trucs quotidiens, machin, deviennent des délits, eh ben, il faut bien enfermer tous ces délinquants, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est enfermer pour éduquer, quoi. C'est finalement une idée, là on a fait tout l'historique de l'enfance, finalement ça découle aussi, enfin je sais pas quoi, hein. Il faut qu'on soit moulé dans le moule et dans un moule qui correspond à l'état, et c'est horrible, quoi, enfin je sais pas comment dire.
Ouais.
Alors jusque là la législation elle permettait de prendre une mesure civile à l'égard des mineurs de moins de 13 ans. Et avec la loi Perben 2, ça réaffirme le rôle de sanction, en fait. À partir de 10 ans, les mineurs vont pouvoir être fichés et faire preuve d'une sanction éducative. Et dès 13 ans, ils vont pouvoir être incarcérés. Et à 16 ans, les enfants vont être jugés quasiment comme des adultes, quoi.
Donc on va toujours plus loin dans l'horreur, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis voilà, génétique, neurosciences, sciences du comportement vont constituer à peu près les piliers modernes de la biologisation des déviances et des questions sociales.
Ouais, parce que.
Et c'est flippant.
Voilà, donc pour illustrer ça, il y a cette tout ce discours là de Sarkozy sur débusquer la délinquance dès le plus jeune âge par des bilans psychiatriques. Parce que voilà, donc c'est soit donc l'enfermement physique, soit ça peut être l'enfermement mental par des neuroleptiques, etc. Donc c'est là, on est passible de prison à 13 ans, sauf que dès 6 ans, on peut se faire administrer des médocs pour déviance, quoi.
Donc c'est ça, c'est vraiment.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment. Il se passe un espèce de, comment on pourrait appeler ça, de comment on dit quand on tu sais quand on sépare, hein, on choisit
de peu. Ouais, je sais pas, l'histoire de ségrégation,
ouais.
Mais en tout cas sur toutes ces questions là de centres éducatifs fermés ou d'établissements pénitentiaires pour mineurs et tout, on vous conseille vraiment d'écouter régulièrement Les Murs ont des oreilles, donc l'émission qui est en alternance avec nous et qui parle beaucoup de ces sujets là
ne posez plus de questions. C'est un ordre. Écoutez-moi.
Alors, ne posez plus de questions, c'est un ordre. Alors, on s'est un peu trompé, mais du coup, on va écouter Kenny Arcana.
Parce que, bon, on l'aime bien, et puis vraiment, je pense qu'elle a des chansons qui collent assez bien à cette thématique-là. Donc, c'est Éconard.
Rappelle quand tu disais que je faisais partie de ces gosses qui ne s'en sortiront jamais, intenables et bien trop féroces, qui salissaient ton sang quand d'obéir au doigt et à l'œil, qui n'avaient que des cendres et un besoin de vivre à 100 à l'heure. Tu te rappelles quand tu disais que j'atteindrais pas les espigés, que je finirais morte dans un coin de rue où j'y serais l'âme d'une gosse perdue qu'on n'avait plus rien à carrer, ou un avenir en cellule derrière les barreaux ou chez les tarés et qu'on a. Je te rappelle quand tu pensais clamer que j'étais bonne, qu'à fuguer, qu'à faire la conne ou à me défoncer. L'exemple à ne pas suer que les lois haïssaient. Pointer du doigt et qui puis ses 12 piges n'est plus scolarisé. Bref, la totale, tu te rappelles que quand tu parlais de moi, tu ne parlais jamais au futur. Putain, j'en avais marre des fois, toutes ces conneries. Mais regardez, sois pas dégoûté, mais je suis en vie et je regrette pas t'avoir jamais écouté. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais. Directeur de centre et de maison d'enfants, et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout. Et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents, connard. Personne ne peut prétendre demain. C'est à toi que je parlais, j'ai pas oublié, t'inquiète. Ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquaient. Le peu d'espoir qui reste quand toi tu dis qu'il y en a plus. Moi je m'en fous, j't'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Tu te rappelles quand tu lui disais que mon cas était irrattrapable et que rejoindre le droit chemin, j'en étais bien incapable. C'était, on ne peut plus sauver cette sauvage, madame Lucifer. Mais qu'est-ce qu'il y a cru, j'allais me sauver toi ou ton Lucifer? Qu'est-ce que tu croyais? Connaître les mots, ma base de dressage, mais toutes vos institutions mènent à la perte, tu captes le message. Alors, si tu crois toujours pour gagner l'obéissance, c'est par la force que ça se passe et que t'es toujours aussi insensé. Et qu'on a, pour nous assagir, c'était quoi tes méthodes? Ah ouais, droguer les mômes en gonflant leur tête de médoc. Et qu'on a, trop facile de faire couper des neuroleptiques à des petits teigneux devenus légumes par ta camisole chimique. Et qu'on a, à tes yeux, on était quoi tous? Juste la mauvaise graine, hein, que t'écrasais histoire que rien ne pousse avec fourberie. Deuxièmement, chair de revanche, tu peux toujours prier ton diable, qu'aucun d'entre nous se venge. Et qu'on a, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais? Directeur de centre et de maison d'enfants, et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout. Et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents, connard. Personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle et j'ai pas oublié, t'inquiète. Ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquaient. Le peu d'espoir qui reste quand toi tu dis qu'il y en a plus. Moi je m'en fous, j't'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Tu te rappelles lorsque tu ordonnais avec ta malveillance qu'aucun éduc ne devait me laisser une seconde sans surveillance, de peur que je parte, qu'est-ce qu'il y a? Tu croyais que j'allais me laisser mourir dans ton enclos ou attendre que quelqu'un vienne me secourir? Non mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on soigne un feu avec l'alcool, marcher à la baguette. Moi je t'en foutrais des piqûres d'alcool car tu avais pas le droit. Et ça tu sais très bien d'ailleurs, je pourrais traîner devant tes tribunaux tes pratiques de tirailleurs. Mais pensez pas, dans mes principes là, retournera pour toi aussi. Et tu te rappelleras ce jour-là de moi et des autres petits indociles. Car y'a une justice là-haut plus juste que votre système. Et on finit toujours par payer les effets des causes qu'on sème. Et connard, j'ai connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard? Et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard? Et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard? Et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard? C'est à toi que je parle. Dis-moi, tu te reconnais? Directeur de centre et de maison d'enfants, et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout. Et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents, connard. Personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle. Et j'ai pas oublié, t'inquiète. Ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquettent. Le peu d'espoir qui reste quand toi tu dis qu'il y en a plus. Moi je m'en fous, j't'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Et connard, c'est à toi que je parle. Dis-moi, tu te reconnais? Directeur de centre et de maison d'enfants, et laisse-moi rigoler. Et connard, c'est à toi que je parle. Dis-moi, tu te reconnais? Directeur de centre et de maison d'enfants, et laisse-moi rigoler.
J'arrête pas. Jamais écouté.
Ouais. Et connard, c'est à toi que je parle. Ok. Alors, on pourrait... C'est une belle chanson, moi je l'aime bien. Et alors... aussi, on n'a pas eu le temps... on est un peu pris par le temps, en fait, parce que... Il y aurait vraiment plein de choses à dire. On aurait pu parler de l'école pendant une heure et demie. On aurait pu parler de cette question de répression des enfants pendant une heure. On pourrait parler de tout pendant une heure. Et on n'a aussi pas eu le temps de vous parler des révoltes d'enfants. Hein. Il y en a eu, évidemment. Mais comme n'importe quoi, elles sont invisibilisées. J'arrive, invisibilisées. Et que, puisqu'elles sont invisibilisées, elles disparaissent vite fait des mémoires collectives. Voilà, après, il y en a eu incessamment sous peu, des révoltes, notamment avec l'histoire anti-CPE, et un peu avec la loi Pécresse cette année. On vous invite à vous révolter tout le temps, pour tout. Plus on sera nombreux, plus ça marchera.
Et puis, sur cette question des luttes, pour nous, c'est vraiment, là encore, il y a des parallèles aussi avec les luttes féministes, où on a l'impression qu'elles sont très vite occultées, et puis aussi, par exemple, ridiculisées. Enfin, vous savez, c'est comme les mouvements de libération des femmes dans les années 70, où en gros, les images qu'on garde, c'est juste elles ont brûlé leur soutien-gorge, c'est hystérique, tout ça, alors que c'est quand même... Il y a des acquis énormes, comme le droit à l'avortement, mais aussi sur la libération des sexualités, sur... Enfin, il y a eu des choses incroyables, sur les solidarités entre femmes et tout, et c'est pareil.
Voilà. Il y a très peu de traces.
Il y a très peu de traces, et du coup, c'est vraiment aussi se réapproprier toute cette histoire, que ce soit justement que ce soit donc sur les luttes féministes, mais que ce soit aussi sur les luttes des enfants. Et du coup, c'est vrai que tout le bouquin pour l'abolition de l'enfance, il est vraiment intéressant là-dessus aussi, quoi. C'est historiquement, ça retrace plein de choses, et ça fait que ben voilà, on peut en tirer des leçons encore aujourd'hui, quoi.
Ouais. Et alors, elle était un peu émo, cette chanson. Ouais. Alors c'est un peu dur de parler maintenant.
Ouais, mais je crois que j'aurais bien envie de dire aussi que faut jamais oublier aussi que les classes dominantes, elles ont toujours besoin aussi des dominés pour se valoriser, pour se sentir utile. Alors voilà, les hommes, ils ont besoin des femmes pour quand ils rentrent à la maison, pour se sentir fort, avoir l'impression qu'il y a quelqu'un pour les écouter, pour se faire réconforter, tout ça. Les familles, les adultes, elles ont aussi besoin des enfants pour se sentir importants, qu'ils ont un rôle protecteur à avoir vis-à-vis d'un petit être si fragile et tout.
Puis clairement, il y a plein de gens qui font des gosses pour donner du sens, quoi. Mon petit sens à la vie.
Voilà, alors je crois que c'est tous ces processus-là qu'on trouve vraiment pourris, et vraiment aussi envie de dire peut-être si dans les classes dominées, à un moment, on arrête aussi de jouer le jeu des dominants et de dire non, tu te serviras pas de moi pour trouver du réconfort, non, je donnerai pas un sens à ta vie, tout ça, et c'est aussi vraiment là qu'on peut casser tous ces mécanismes, quoi.
C'est clair, et puis jouons à l'enfant quand on trouve ça intéressant, révoltons-nous quand on voit des enfants ou même nous subir l'infantilisation débile tout le temps, enfin n'hésitons pas à renvoyer plein de choses à la gueule, en fait. J'ai l'impression que c'est un truc qui date de la petite enfance, du coup, même pour nous encore, je pense que c'est un peu dur à déconstruire, toutes ces notions de classe. Mmh. Mais je pense qu'il y a moyen.
Ouais, et du coup, on vous invite aussi à aller sur un site internet, qui est le site du réseau
Tomate. Ouais.
Où il y a pas mal d'écrits, justement, dont on vous a cités, qui sont un peu rassemblés, comme ceux de Christiane Rochefort, comme ceux de Catherine Baker. Et puis il y a aussi une petite brochure qui est chouette.
Une petite brochure, ouais, qui s'appelle Devenir grande. Et moi, je la trouve intéressante. C'est un groupe qui discute, qui a l'air vraiment intéressant sur notamment la question qu'il pose dans cette brochure, c'est quand est-ce que tu as quitté l'enfance ? Et du coup, c'est marrant. Enfin, c'est intéressant de même se poser la question à soi-même. Moi, j'espère jamais. Et vous pouvez aller voir tout ça sur www.tomate.poivron.org. Voilà.
Ouais. Alors nous, on va vous laisser avec une chanson qui est aussi un peu contre les normes qu'on nous impose. Alors c'est sur la dyslexie. Alors je crois que t'avais un petit extrait sur la dyslexie.
Il y a un petit bout dans Catherine Baker qui dit à un moment donné, c'est l'État qui, c'est l'école qui crée ces dyslexiques. Mais je retrouve pas le passage. Alors on n'a qu'à écouter Buzzy. C'est un peu débile, vous allez voir, c'est une musique des années 80.
Ouais, et alors, nous, on se retrouve avec des genrés dans 15 jours. Est-ce que c'est quoi la thématique de la prochaine émission ?
Ce sera une surprise, c'est ça qui est super.
Ah ouais ?
Non, ce ne sera pas une surprise. Ce sera sur l'excision, sur le quick-quick du clitoris, c'est abominable, ça va être horrible comme émission, préparez-vous. Non, ça va être super génial, hyper drôle, hyper fort et tout ça, machin.
Ouais, c'est bref, histoire de se renforcer, quoi.
C'est ça, et un petit clin d'œil, parce qu'en ce moment, on peut faire pas mal de liens entre enfance et psychiatrie aussi, et notamment dans Catherine Baker, il y a des bons trucs là-dessus. Le 26 janvier, au soir, au local autogéré, il y a une soirée sur Deligny, et je pense que ça vaut le coup d'y aller.
Voilà, c'est à 19h30, donc rue Pierre Dupont,
Dumas,
Durand, non c'est Pierre Dupont, pardon.
Pierre Dupont.
Ouais.
Donc, le 26 au local, une soirée sur l'antipsy, et puis maintenant Buzzy, je suis complètement dyslexique.
Ciao.
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 On se barre.
On se barre.
Et surtout ces visages de stars un peu bizarres. Je me suis même amusée à les rebaptiser. Sur étiquette brillante, je leur ai inventé une autre identité, histoire de les démystifier. Et Marie Dean s'endort juste à côté de Pauline. James Dean a le sourire de Marie. Et si j'ai la manie de tout intercaler, histoire de ne pas m'ennuyer, on m'appelle Sally, Sally, Sally Rongie.
Rénovégalité, curriculabilité.
Je suis un peu dyslexique et beaucoup lexilisque. Marilyn s'endort avec le nez de Bogart. James Dean a le sourire de Marilyn. Moi je me réveille avec la tête à l'envers. Je vais tout travers. Je suis dyslexique. Lexidine.